Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette rencontre sur la pop musique et les féminismes organisée au tiers-lieu culturel WIT dans le cadre du L Festival du Chabada. On les remercie pour cette soirée. Alors avec la journaliste Morgane Giuliani, autrice du livre Féminisme et musique, la pop de Madonna à nos jours, nous allons tenter de détricoter les liens entre les pop stars féminines, leur féminisme et les mouvements féministes dans leur ensemble, tout un programme. Oui. Dans ce livre sorti aux éditions Les mots et le reste en 2023, tu démontres comment le monde de la pop a changé depuis Madonna ou les Spice Girls jusqu'à aujourd'hui avec Beyoncé ou Taylor Swift, notamment dans leur rapport au féminisme que les artistes affirment beaucoup plus désormais. Tu démontres aussi comment les violences sexistes systémiques et la misogynie règnent encore dans le monde de la musique et des médias, y compris quand on parle de pop star féminine. Donc du girl power des années 1990 à la pop féministe des années 2010, on va s'intéresser à ce phénomène complexe et nuancé où la place de la féminité, du corps, des engagements, de l'argent joue un rôle essentiel. Et avec nous également, l'artiste angevine Louise Duigou, plus connue peut-être sous le nom de son ancien groupe Michel et les Garçons, qui développe aujourd'hui son nouveau projet qui s'appelle Creature is Born. Et en tant qu'artiste plutôt pop, tu vas nous partager, toi, ton expérience de l'intérieur du monde de la musique en tant que femme. Pour commencer, je vous propose qu'on fasse un petit peu plus connaissance avec toi, Morgane. Tu es donc journaliste, formée à Sciences Po Paris. Comment est-ce que tu en es arrivée à t'intéresser au féminisme et puis au lien surtout entre pop, culture et féminisme ?
C'est une bonne question, ça a été tout un cheminement. Comme beaucoup d'ados, c'est vraiment à l'adolescence que je me suis mise à me passionner pour la musique et à écouter beaucoup de groupes, plutôt à l'époque rock. Donc j'ai fait, sans transition, je suis passée de Billy Crawford à Muse, Placebo, Linkin Park. C'était assez violent, mais j'ai bien aimé quand j'avais 12-13 ans. Et puis assez vite, j'ai eu envie d'écrire sur la musique. Donc j'ai commencé sur Skyblog, car je suis une milléniale. Donc j'ai eu plusieurs Skyblogs sur la musique. Et puis finalement, dans le prolongement, j'ai commencé à bosser sur des blogs participatifs autour de la musique. Et puis petit à petit, comme ça, des sites. Je voulais être journaliste. À la base, je me destinais plutôt à la politique. Finalement, j'ai bifurqué vers les sujets culture et société parce que c'était ce qui m'animait le plus. Et je pense que j'ai eu très vite aussi une appétence pour comprendre la société de manière générale, notamment ses grandes dynamiques. Et par exemple, c'est vrai que dans mon cas, en tout cas, passer par Sciences Po, c'était une chance parce que ça nous forme justement aux grands, on va dire entre guillemets, penseurs. En tout cas, ça donne des clés pour essayer de mieux comprendre comment fonctionne notre société et notre système politique. Et assez vite, j'ai eu envie de croiser société et culture, et donc d'avoir un regard notamment féministe sur la culture, qu'est-ce qu'elle raconte de nous, notamment des femmes et des minorités. Et puis, ce livre Féminisme et musique, donc, qui s'intéresse au croisement entre la musique pop et le féminisme, on en a eu l'idée avec mon éditeur parce qu'on a tout simplement remarqué que depuis une dizaine d'années, on a à peu près toutes les pop stars féminines qui se disent féministes, ce qui n'était vraiment pas le cas avant. Par exemple, Madonna, pendant des dizaines d'années, ne s'est pas dite féministe. D'ailleurs, au contraire, elle était plutôt très critiquée par beaucoup de féministes de son époque.
Ouais, on va y revenir à ça voilà. Tout à l'heure.
Et donc, ça nous intéressait d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on passe de chanteuse pour qui le féminisme était un gros mot, on va dire, très peu s'identifier, à aujourd'hui toute une génération et aussi une nouvelle génération qui arrive, qui se revendique du féminisme, mais aussi de plein de combats sociétaux différents. Et donc, c'est ce que j'essaye de comprendre à travers mon travail, notamment à travers la pop, mais pas que. Parce que j'aime bien comprendre ce que ces artistes racontent de nous. Et aussi, je trouve, examiner la manière dont nous, on les reçoit. Souvent, ça en dit beaucoup aussi sur nous-mêmes.
Sur nous et puis sur la société aussi. Peut-être, avant d'aller plus loin, est-ce qu'on pourrait pas s'accorder un peu sur les termes, en fait ? Mais c'est quoi une pop star, en fait ?
C'est une bonne question qui, je trouve, est de plus en plus compliquée à définir. Nous, on est parti du principe que notamment en ce qui concerne les pop stars féminines, c'est Madonna qui a créé le moule, on va dire, dans lequel elle se glisse quasiment toute aujourd'hui, c'est-à-dire notamment celui d'une hypersexualisation, de la revendication d'une force personnelle, on va dire, très très importante, et l'envie de briser les tabous autour des femmes et de finalement de provoquer, de choquer. C'est aussi l'envie de faire de l'argent, de le revendiquer, de faire attention aussi au côté business, notamment dans... c'est pas toi qui vas me contredire, dans l'industrie musicale, il y a industrie, donc c'est un milieu où l'argent a énormément d'importance. Et puis, c'est aussi elle qui a créé ce moule d'être, par exemple, une artiste très athlétique qui doit être capable de durer sur des concerts de 2-3 heures. C'est elle qui a commencé, en tant qu'artiste féminine, à faire des grands spectacles concerts avec beaucoup de chorégraphies, plein de changements de costumes, des décors, même des concerts organisés en tableau, en acte. Et donc, à partir du moment où Madonna a créé toute cette configuration-là, eh bien, il a fallu que les autres essayent de se couler dans ce moule-là, même si, en même temps, je trouve qu'aujourd'hui, on commence justement à voir émerger d'autres types de pop stars, par exemple Taylor Swift, qui, elle, n'est vraiment pas une grande danseuse et qui n'a jamais vraiment cherché à l'être. Mais en tout cas, voilà, Madonna, on part d'elle parce que c'est clairement elle qui a créé le moule de la pop star tel qu'on les connaît aujourd'hui.
Dans ton livre, tu parles de féminisme pop. Est-ce que tu peux nous dire d'où ça part et puis quelles en sont les caractéristiques principales ? Brosser un petit portrait de c'est quoi ça ?
Alors, c'est, on va dire, une vague féministe, une nouvelle définition du féminisme qui a émergé notamment dans la décennie précédente, les années 2010. C'est l'idée d'un féminisme qui se dilue dans la pop culture, donc dans des séries, dans des films, dans des livres. Ça va concerner aussi, par exemple, les collages féministes qu'on peut trouver dans la rue. C'est un féminisme qui passe beaucoup par Internet, notamment les réseaux sociaux. Il y a l'idée d'un féminisme qui devient vraiment accessible, qui est vulgarisé, qui va être incarné aussi un peu par finalement n'importe qui. Ça peut être aussi bien une célébrité qu'une jeune femme anonyme qui va devenir entre guillemets influenceuse féministe. Donc c'est l'idée d'un féminisme finalement un peu de masse entre guillemets, qui en tout cas est sorti on va dire, des cercles universitaires et militants, c'est-à-dire pour vraiment toucher une large population. C'est aussi une approche du féminisme qui est pas mal critiquée pas mal d'intellectuels qui estiment que c'est un féminisme pas assez politique, qui est trop mercantile aussi. On peut penser par exemple à quand Dior avait sorti un t-shirt avec écrit « We should all be feminists », nous devrions tous être féministes, qui était vendu à 500, 600 euros. on peut se demander s'il y a vraiment un intérêt politique à sortir un t-shirt comme ça par exemple. Donc voilà, c'est plutôt, en fait, j'ai envie de dire parfois, ce féminisme qui nous trouve un peu au détour d'Internet ou de la pop culture, sans qu'on l'ait forcément cherché au début. Et en tout cas, pour moi, c'est un peu le féminisme de ma génération, c'est-à-dire des millénials qui ont d'abord grandi en tant qu'adolescents en nous entendant dire que le féminisme n'était plus nécessaire. Et finalement, il y a eu un sursaut dans les années 2010 parce qu'il y a eu plein d'affaires, dont notamment, bien sûr, MeToo, qui ont remis en avant le fait que, malgré l'égalité dans la loi, dans les faits, les femmes sont toujours encore très discriminées, beaucoup victimes de violences, et que notre société, en fait, reste encore très inégalitaire et très, très misogyne.
Juste un rappel, pour ceux qui ne sauraient pas, mais les millennials, c'est en gros, on grandit dans les années 90,
2000, ouais,
2000 voilà. Ouais. Alors, on va revenir tout à l'heure donc, à cette notion de féminisme pop, mais d'abord, on va faire quelques détours. Et puis, on commence par faire un petit détour par toi, Louise. Alors, je disais tout à l'heure, tu performes aujourd'hui sous le nom de Creature is Born. Les Angevins te connaissent plus sûrement sous le nom de scène de Michel et les Garçons, qui était ton précédent projet. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu, c'est quoi ton projet aujourd'hui ? Creature is Born, c'est quoi ? Est-ce que c'est un projet pop ? Est-ce que tu décrirais ça comme ça ?
Au final, je pense qu'on va même l'appeler Créature.
Créature, ok.
Mais en gros, ça a commencé il y a un an, où j'ai commencé à faire du DJ set sur Platine Numérique. Et j'ai commencé à filer un coup de main à un ami qui faisait du drag. Et du coup, je me suis strappé la poitrine parce que ça m'intéressait, j'avais envie de le faire depuis longtemps. Donc ça a commencé comme ça, Créature, par une expression scénique, en fait, corporelle, et par une envie d'explorer encore plus l'androgynité, la non-binarité aussi, dans le spectacle. Et donc ça a commencé comme ça. Ensuite, j'ai commencé à faire des DJ sets sous ce nom-là, Et puis là, c'est en train d'évoluer en projet artistique plutôt pop avec un peu de l'électro indé.
Toi toute seule pour le moment, en tout cas.
C'est ce format-là,
c'est ton projet à toi. Je sais que tu portes des valeurs féministes à travers ce projet aussi. Est-ce que tu veux bien nous en dire quelques mots? Comment ça s'incarne, en fait? Tu parlais là d'androgynité, donc c'est même plutôt presque queer, ou en tout cas, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui t'importe dans ce que va donner ce projet Créature?
Oui. Évidemment, puisque ben, je suis une personne dans une enveloppe féminine, donc forcément, je monte sur scène et malgré que j'aimerais que ça ne raconte rien, ça raconte des choses. Donc, le fait de performer avec ce corps-là, ça raconte plein de choses sur la féminité, sur le corps, sur comment une personne avec une enveloppe féminine est perçue dans la société aujourd'hui et sur la scène aujourd'hui.
Alors, aujourd'hui, tu as 30 ans. Tu me disais en préparant cet échange que ta première idole, c'était Laurie. En tout cas, celle qui ressemble au pop star dont on va parler aujourd'hui. On va faire un petit retour en arrière, un peu plus loin encore dans le temps, avant Laurie, avant Beyoncé, avant même l'avènement du féminisme pop dont on parlait tout à l'heure. On va revenir à parler de cette Madonna qui arrive sur la scène musicale américaine à la fin, en fait, de la deuxième vague féministe, hein, qui s'étend des années 60 et 70 et qui lutte pour les droits liés plutôt au corps des femmes. À cette époque, elle est elle-même l'héritière d'autres artistes, hein, comme Debbie Harry, Blondie, qui a été l'une des premières performeuses femmes à reprendre ses codes du patriarcat et à en jouer. Elle incarnait à l'époque une femme fatale, blonde platine, qui a des attitudes très punk. Donc elle était voilà, une des instigatrices, on va dire, qui ont pavé la voie à ce que Madonna a pu devenir à la fin des années 70 et surtout dans les années 80. Tu racontais un petit peu comment elle crée ce concept et les codes finalement de la pop star féminine. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu dans quel contexte elle arrive sur le devant de la scène pop et pourquoi elle choque tant, en fait, à la fois les puritains, et puis tu le disais tout à l'heure, les féministes aussi, finalement.
Comme tu le disais, Madonna, elle commence à se faire connaître au début des années 80. En gros, ce qui s'est passé, pour grossir le trait, c'est qu'elle a déménagé à New York avec pas grand-chose dans ses poches, contre l'avis de son père. Elle a grandi dans une famille très catholique, très conservatrice. Elle a fréquenté des établissements catholiques, ce qu'elle a très mal vécu. Notamment, elle a très vite perçu, quand elle était ado, que les filles n'étaient pas traitées de la même manière que les garçons, et qu'en tout cas, elle subissait beaucoup plus d'interdits. Donc par exemple, un de ses premiers actes de rébellion, c'est qu'elle ne se rasait pas les jambes quand elle était ado. Elle fait une rencontre décisive pour elle aussi, c'est celle de son premier professeur de danse qui s'appelle Christopher Flynn, qui est un homme gay par ailleurs et qui va être vraiment le premier à saisir son talent à la base de danseuse, parce qu'elle se destinait plutôt à ça, et qui va l'emmener en boîte gay. Donc très jeune, vers ses 14-16 ans. Et pour elle, c'est un déclic à ce moment-là, parce qu'elle se rend compte qu'on peut exister autrement qu'à travers les injonctions de la société, donc notamment de voir justement ce rapport au genre très bouleversé. Elle dit, des hommes habillés de manière féminine et inverse. Ça va beaucoup la marquer, tout comme David Bowie, qu'elle cite vraiment au-delà des idoles féminines comme sa première idole, parce qu'il avait ce côté à mélanger le masculin et le féminin, et l'impression que tout était possible, et qu'on pouvait faire éclater toutes les étiquettes dans lesquelles on essayait de vous faire rentrer à l'époque. Et elle choque beaucoup parce que Madonna, c'est quelqu'un qui, en tout cas, donne cette image de confiance en soi tout de suite, qui en impose beaucoup sur scène. C'est quelqu'un qui, déjà à ce jeune âge, a beaucoup d'ambition, de détermination. Elle va un peu se faire toute seule, c'est-à-dire elle va faire les bonnes rencontres, mais elle va aussi être capable de bien choisir les producteurs, les managers vers qui se tourner. Une petite anecdote, par exemple, elle est repérée après avoir passé un casting pour être une danseuse pour l'auteur du tube Born to be Alive, qui est français, donc dont j'ai plus le nom là tout d'un coup, mais pardon ?
Patrick Hernandez,
merci beaucoup. Et donc, elle passe un casting pour être danseuse de Patrick Hernandez. Et là, elle est repérée par les producteurs de Patrick Hernandez qui lui dit « Viens à Paris, on va faire de toi une star ». Et elle y va, elle se fait rincer à l'œil pendant 3 mois et puis elle se casse sans rien leur dire parce qu'en fait, ce qu'il lui proposait ne lui convenait pas. Et puis c'est là qu'elle va commencer à se faire connaître à New York. Et elle choque très vite parce qu'elle a tout de suite ce côté très hypersexuel, très assumé. Alors c'est pas du tout la première artiste dans l'histoire de la musique femme à parler de sexualité. Il y en a eu bien avant elle. Mais notamment, ce qui change dans son cas, c'est qu'elle démarre sa carrière en même temps que la création de la chaîne MTV, qui va être la première chaîne à diffuser des clips vidéo, qui apparaît en 1981. Et ça, très vite, Madonna, elle perçoit l'intérêt du clip vidéo. Donc notamment, un de ses premiers clips pour Like a Virgin, elle va se rendre à Venise avec son look un peu Lolita Punk qu'elle a à cette époque-là, et chanter sur une gondole à Venise sa chanson qui déjà à ce moment-là mêle sexualité et religion, où en gros elle fait des parallèles entre la montée de l'orgasme et une espèce d'épiphanie religieuse. Et donc ça choque beaucoup, puis elle s'amuse forcément à jouer avec ses origines italiennes et notamment catholiques. Et en fait, elle va aller comme ça de provocation en provocation pendant les 10 premières années de sa carrière, notamment autour de la sexualité, mais au-delà de ça aussi de son rapport au genre. Elle s'inspire aussi beaucoup, par exemple, de Marlène Dietrich, dont elle adore le look avec des beaux costumes, et cette idée, à nouveau comme son idole David Bowie, de transfigurer les étiquettes genrées du masculin et du féminin. Et elle va faire un album notamment qui s'appelle Erotica, dans lequel c'est vraiment une ode à la sexualité, mais aussi à la fluidité de l'orientation sexuelle, mais aussi de l'identité de genre. Il va y avoir un clip aussi là qui s'appelle Justify My Love, qui se passe dans un hôtel où elle va un peu de chambre en chambre, où on voit différents types de personnes en fait avec différentes identités de genre. Et là pour le coup, autant MTV lui passer un peu tout ce qu'elle faisait en clip parce que ça marchait très bien, là MTV décide de le censurer parce que ça va un peu trop loin à leur goût quand même. Faut rappeler qu'à ce moment-là, on est en pleine époque de Ronald Reagan, qui est vraiment une époque de conservatisme politique, mais vraiment très moralisateur. Il y a un peu une police des mœurs qui se crée à cette époque-là au niveau de la culture. Et finalement, c'est un peu ce qu'on appelle l'effet Barbara Streisand, c'est-à-dire qu'à partir du moment où MTV annonce qu'il censure, qu'il ne diffusera pas ce clip, ça le met d'autant plus en avant, et ça fait encore plus parler de Madonna, qui a la bonne idée aussi de vendre le clip en cassette, en vidéo cassette. C'est la première fois que quelqu'un fait ça. Donc là aussi, on voit son côté femme d'affaires, et ça se vend très très bien. Et elle double cet album Erotica d'un album de photos érotiques qui s'appelle Sex, tout simplement, qui là aussi, bien sûr, fait scandale, parce que c'est vraiment des photos très poussées, parfois à la limite de la pornographie, où elle pose avec plein de gens différents, et où notamment elle met en avant son appréciation des pratiques BDSM, donc tout ce qui est lié au bondage, au sadomasochisme, etc. Et donc là, c'est une période pour elle très spéciale parce que elle va être à nouveau beaucoup traînée dans la boue. Mais en même temps, pareil, le livre de photos se vend très bien. Et à cette époque-là, on a pas mal de féministes qui la critiquent en disant que justement, du fait qu'elle soit très hypersexualisée, pour certaines féministes, comme par exemple Bell Hooks, qui est une des grandes penseuses féministes, Madonna, c'est l'incarnation du male gaze, c'est-à-dire cette idée qu'il ne serait pas possible en tant que femme de se sexualiser tant qu'on vit sous le patriarcat, c'est-à-dire que même quand tu essayes d'en faire un outil un peu pour avoir confiance en toi, forcément ça se fait sous le regard masculin. Et donc elle se retrouve à être très critiquée par beaucoup de féministes, et en même temps il y en a d'autres qui la soutiennent. Et d'ailleurs, ce que je raconte dans le livre, c'est aussi pour ça qu'on voulait le commencer avec elle, c'est que elle va devenir un objet d'étude très vite dans les premières années de sa carrière à l'université, donc des facs comme Harvard ou Princeton, qui vont commencer à faire des cycles universitaires autour de Madonna, parce qu'en fait elle vient complètement bousculer son époque, à nouveau notamment en donnant cette image sexualisée très assumée. Et puis c'est aussi quelqu'un qui s'investit beaucoup politiquement, notamment à ce moment-là dans la lutte contre le VIH, mais aussi dans la lutte contre la stigmatisation des malades et la désinformation. Et donc ça choque d'autant plus à cette époque-là, parce que c'est les débuts au début des années 80, le début de cette épidémie, avec tous les clichés, tous les stéréotypes homophobes qui émergent tout de suite à ce moment-là, notamment sous l'administration Reagan, qui met beaucoup de temps à s'emparer du dossier, à essayer de concrètement endiguer cette épidémie.
Elle a un succès planétaire qui est assez rapide, qui est énorme, qui, avec des millions de ventes d'albums, des tournées internationales qui génèrent elles aussi des millions de dollars. Et pour autant, elle se prend elle aussi à chaque sortie des tombereau de sexisme dans la figure. Le niveau de sexisme à ce moment-là dans l'industrie de la musique, il est comment? Il est comme aujourd'hui? Il est pire qu'aujourd'hui? Est-ce qu'on a une échelle du sexisme?
C'est compliqué. Je pense que le sexisme dans l'industrie musicale est toujours présent. Je pense qu'à son époque, il était peut-être plus décomplexé qu'aujourd'hui. Madonna, c'est aussi... En fait, c'est compliqué parce que à la fois, c'est une inspiration pour beaucoup, mais c'est aussi une anomalie. Je pense que son modèle est difficilement réplicable parce qu'il a fallu que beaucoup de choses se conjuguent en même temps. Par exemple, c'est aussi quelqu'un qui a réussi à négocier d'obtenir 20% de droits de royalties. À son époque, c'était la seule artiste femme à avoir un taux aussi haut. C'était le même que Michael Jackson. Donc, elle était vraiment au même niveau que Michael Jackson à cette époque-là. Et c'est quelqu'un qui cristallise beaucoup les tensions de son époque. Par exemple, quand sort le clip de Like a Prayer, cette fois, où on la voit embrasser un saint noir dans une église, on la voit danser devant des croix en flammes. Le Vatican va même s'indigner de ce clip-là. Donc à l'époque, on est sous Jean-Paul II, qui va qualifier cette chanson comme étant blasphématoire. À ce moment-là, elle entame sa tournée, le Blonde Ambition Tour, qui reste sa tournée la plus emblématique, qui a lieu en 1990. Et le pape appelle officiellement à boycotter sa venue en Italie. Et dit que c'est un des spectacles les plus sataniques qui ait jamais existé. Et donc, mais la polémique est vraiment importante à l'époque, quoi, au point que quand elle arrive en Italie, le premier truc qu'elle fait, c'est qu'elle s'adresse aux journalistes, en fait, et donc elle répond officiellement au Vatican. Vous pouvez aller regarder sur YouTube, cette archive est disponible, et c'est un moment complètement hallucinant, quoi, où elle est obligée de se justifier et aussi de rassurer sur le fait qu'elle n'était pas un être démoniaque, juste parce qu'elle avait le culot de parler de sexualité en tant que femme.
Et alors, tu disais tout à l'heure, effectivement, qu'elle avait un engagement, notamment pour les droits LGBT, dès cette époque-là, ce qui était quand même pas neutre à l'époque du
tout.
Non,
pas du tout.
Mais elle n'a pas un engagement féministe, en fait. Elle ne se dit pas féministe.
Non, pendant très longtemps, elle ne se dit pas féministe. Je pense notamment, parce qu'elle a subi aussi beaucoup de critiques de la part des féministes de son époque. En fait, on sent bien que dans la tête de Madonna... Les féministes, en tout cas de son époque, ce qu'elles disent relève de tentatives de censure, tout comme la droite qui essaye de la censurer à l'époque. Donc elle, on sent vraiment qu'elle range conservateurs et féministes dans le même sac et elle ne fait pas de distinction. Il faut vraiment attendre plutôt la fin des années 2000 pour qu'elle commence à parler de féminisme, même ne serait-ce que prononcer le mot. Alors une des premières fois où elle le fait, c'est dans un cadre quand même assez spécial, c'est dans le cadre de l'adoption d'une de ses filles au Malawi, qu'elle avait adoptée seule. Et pour le coup, cette adoption-là avait été très compliquée. Et elle estimait que c'est parce qu'elle était célibataire à ce moment-là. Donc elle l'a pris justement comme une attaque sexiste, parce qu'on n'avait pas envie de faire confiance à une mère célibataire. Et elle dit notamment à ce moment-là, elle cite son féminisme comme un des moteurs de son envie d'adopter cette petite fille du Malawi à cette époque-là.
Oui, qui avait par ailleurs fait aussi polémique avec les...
Où je reviens également dessus dans le livre.
Il y a toute une polémique autour de ça. Je vous invite à aller voir, c'est rigolo
ça
à
lire. Ça a pris aussi des grosses proportions,
Et
par contre, au moment de MeToo, mais aussi de l'élection de Donald Trump, qui a vraiment servi d'électrochoc à beaucoup d'artistes qui étaient assez silencieux sur ces problématiques-là, elle se joint aux centaines de milliers de femmes qui défilent début 2017 lorsque Donald Trump entre officiellement à la Maison Blanche, et elle s'adresse notamment à la foule à Washington.
Et
en tant que féministe.
Et justement, tu l'as décrit dans le livre comme une féministe du choix, qui estime donc, ça veut dire qu'elle estime que chaque femme est la mieux placée pour choisir ce qui lui convient, mais c'est un positionnement qui est plutôt controversé. Hein. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quelle est cette controverse?
Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, quand vous commencez vraiment à mettre le nez dans l'histoire du féminisme, c'est qu'il y a en fait beaucoup de courants inhérents au féminisme. Des courants qui, en fait, en général, reflètent la société telle qu'elle est au moment où ils émergent, mais c'est ça qui est aussi intéressant à étudier. Dans son cas, elle relève plutôt de ce qu'on appelle en anglais le « choice feminism », donc le féminisme du choix. C'est l'idée qu'en fait, chaque femme, faisant un choix pour elle-même, est forcément le bon, puisqu'elle l'a fait pour elle-même. Et donc, y a un peu cette idée que peu importe ce que vous choisissez de faire, que ce soit travailler ou pas, être mère ou pas, vous épiler ou pas, enfin, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est forcément féministe parce que vous l'auriez choisi pour vous-même. Mais c'est une approche du féminisme qui est très critiquée comme étant trop individuelle. Et qui essaye un peu de tout mettre sur le même plan, qui serait trop dans un espèce de relativisme politique aussi, en disant que tout se vaut.
Et finalement, qui oublie un peu le contexte patriarcal dans lequel on évolue et qui fait que toutes les femmes n'ont pas vraiment tous les choix.
Oui, voilà. Et que, en fait, de quel choix parle-t-on et en fonction de vos origines sociales, par exemple, de vos l'environnement culturel, de vos moyens financiers, toutes les femmes n'ont pas accès aux mêmes choix les unes les autres. Mais c'est un féminisme très américain aussi, c'est-à-dire très libéral, qui reflète aussi la fin du XXe siècle.
Presque capitaliste.
Complètement capitaliste d'ailleurs aussi, parce qu'il y a un peu ce côté « je décide pour moi-même ». Peu importe ce que font les autres autour de moi, et on n'a pas à me critiquer parce que je fais mes choix pour moi-même. Donc il y a un peu cette idée aussi de jamais se questionner soi sur ce qu'on fait, ni l'influence que ça peut avoir sur les autres, notamment quand on est une grande artiste comme elle. C'est un peu, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver entre, quand on dit ce que je fais ne regarde que moi, quand ta vie est à ce point publique, c'est un peu compliqué de le tenir.
Et justement, est-ce que tu dirais que Madonna, alors on parlait des polémiques avec le Vatican, etc., est-ce qu'elle fait bouger des lignes déjà dans la société américaine à cette époque ? On imagine que oui.
Oui, je pense qu'elle fait bouger des lignes déjà auprès des jeunes filles, parce qu'elle est idolâtrée par beaucoup de jeunes filles à son époque. Par exemple, des jeunes filles qui vont s'habiller comme elle, qui vont prendre exemple sur son indépendance, sur sa force de caractère. Et puis notamment pour tout ce qui concerne ses combats contre le VIH et contre la stigmatisation des malades, ça va quand même aussi sensibiliser... après c'est toujours difficile à mesurer, mais on peut l'imaginer, son public à cette cause-là. Par exemple, à une époque où le gouvernement Reagan n'intervenait toujours pas vraiment sur la question, elle glisse un petit flyer d'information dans un de ses albums pour un peu débunker toutes les fausses infos, toutes les rumeurs qui circulent autour du VIH par exemple. Donc ça, typiquement, c'est des choses très politiques qui peuvent effectivement aider à éduquer le public. Et à changer les opinions, un peu comme Diana, la princesse Diana a pu faire aussi à cette époque, quand elle-même allait à la visite de malades du VIH dans des hôpitaux pour essayer de déjouer encore une fois tous les clichés très destructeurs qu'il y avait autour de ce sujet-là, ouais.
Louise, est-ce que pour toi, Madonna, c'est aussi une icône qui fait partie de ton panthéon, on va dire ? En tout cas, voilà, quelle image de Madonna de ton côté ?
Madonna, c'est ma reine.
C'est beau.
Non, mais moi, j'ai connu Madonna grâce à ma maman, en fait, qui écoutait ça quand elle était ado. Puis elle m'a fait écouter quand moi, j'étais enfant... je sais pas, vers entre 7 et 10 ans, quoi. Et ma maman, elle avait toute une collection de bottes depuis qu'elle était adolescente. Et c'était parce qu'elle était fan de Madonna. Voilà, collection qui existe toujours et à laquelle je peux avoir accès.
Trop chouette.
Trop bien.
Il faut en prendre soin, hein, parce que...
Oui,
c'est précieux.
Et alors, en parallèle de Madonna, il y a tout un mouvement pop qui ne se revendique pas féministe, mais qui se revendique plutôt du girl power, qui naît dans la lignée des Riot Girls dans les années 90, en version pop plutôt que punk. Et il y a notamment les Spice Girls, auxquelles tu consacres aussi toute une partie de ton livre. C'est le groupe de filles au succès planétaire avec lequel les filles de la génération des millennials grandissent. Elles arrivent sur scène en 1996 et tu dis qu'elles inaugurent un croisement entre pop et féminisme malgré elles. Le malgré elles est très important. Déjà, c'est en quelques mots, parce que je vois le temps qui passe, c'est quoi le girl power dans lequel elles s'inscrivent? Ça veut dire quoi, girl power, en fait?
Donc, comme tu disais, le girl power, à la base, ça émerge dans des scènes punk féminines américaines en réponse au sexisme des scènes punk de l'époque. Donc, ce sont des filles qui vont, par exemple, avoir cette culture du fanzine, de faire communauté et de faire front face à un milieu qui est très, très masculin et très misogyne. Et après, on a cette idée du girl power qui se retrouve attrapée par la pop, comme pas mal de concepts sociétaux ou politiques, et notamment qui va se retrouver incarné par les Spice Girls. Dans leur cas, pour moi, le girl power, c'est l'idée d'être fière d'être une fille, notamment. Donc il y a cette idée de ne pas vouloir effacer son genre, entre guillemets. En tout cas, tout ce qui est vu comme lié au genre féminin. Donc le fait voilà, de s'habiller de manière très féminine, de se maquiller, de passer du temps avec ses amis. Il y a cette idée justement de sororité, d'essayer de prioriser plutôt ses amitiés féminines sur ses relations, par exemple notamment avec des hommes. Et puis chez les Spice Girls, il y a quand même aussi cette idée de l'hypersexualité. Alors un peu moins prononcée que chez Madonna, mais elles ont quand même pas mal de chansons qui parlent de sexe et qui demandent notamment aux hommes d'être de bons partenaires sexuels et qui du coup encouragent les femmes à être plus exigeantes vis-à-vis de ce qui se passe dans leur vie sexuelle. Et elles ont un peu aussi le combat de réclamer l'égalité des salaires. Voilà, mais c'est un peu le combat qui commence à émerger dans les années 90-2000. Qui est finalement aussi, enfin, je veux dire, un petit peu consensuel, parce qu'on peut se dire que c'est un peu du bon sens. Mais voilà, c'est un peu la vision du girl power qui est portée par les Spice Girls à cette époque-là et qui va parler à toute une génération de petites filles, d'adolescentes qui sont aujourd'hui adultes.
Elles se prennent à ce moment-là, elles aussi, des tombereaux de remarques sexistes. Est-ce que tu peux décrire un petit peu dans quel niveau de sexisme elles évoluent à ce moment-là ? Parce que c'est quand même d'une violence incroyable.
C'est très violent. En fait, elles subissent du sexisme à la fois des médias, par exemple, ou notamment, en fait, le groupe a été formé à la suite d'une petite annonce dans un journal de producteurs qui voyaient la mode des boys bands et qui se sont dit bah, essayons de créer un girls band, ce qui était un genre par exemple populaire au milieu du 20e siècle. Clairement, il y a quelque chose à faire. Et à nouveau, je pense que c'est l'influence du clip musical à cette époque qui pousse, qui remet ce genre musical pop à la mode. Et donc, elles répondent à cette annonce, elles sont castées, il y a des centaines de filles qui passent cette audition, et elles sont mises dans une maison, et elles suivent des cours de chansons, de danse. Donc, c'est vraiment la Star Academy avant l'heure.
Avant l'heure.
Non, mais c'est vrai, ça n'existait pas à l'époque. Et en fait, comme souvent, comme ça a été beaucoup le cas pour Britney, on a tendance à... Enfin, l'histoire n'est pas toujours neutre. Je trouve que c'est beaucoup le cas, dans le cas notamment des pop stars féminines. En fait, même moi, tu vois, en faisant mes recherches, j'ai découvert beaucoup de choses dont j'étais pas au courant, parce qu'en fait, on les oublie, ça passe à la trappe. Dans le cas des Spice Girls, par exemple, elles participaient déjà à l'écriture de leur toute première chanson, dont leur fameux gros tube Do You Wanna Be, voilà, If You Wanna Be My Lover, You Gotta Get Along With My Friends. Elles ont participé à son écriture, et puis par ailleurs, ça faisait un an que voilà, elles travaillaient beaucoup. Du coup qu'elles s'entraînaient au chant, à la danse, et là elles avaient envie que ça accélère et de signer un contrat. Donc elles décident, la légende dit, de voler leurs premiers enregistrements et d'aller trouver elles-mêmes un producteur. Donc ce sont des femmes qui quand même, je trouve, ont été maîtresses de leur destin. Et ça, c'est des choses qu'on oublie souvent dans le cas des pop stars féminines, où on a tendance à caricaturer et dire qu'elles sont toutes manipulées en coulisses par des hommes. Souvent c'est plus compliqué que ça. Et dans leur cas, tout comme Madonna à son époque, le fait qu'elle soit pas mal sexualisée, ça va leur être reproché. Le fait que le groupe justement soit issu d'un grand appel à casting, ça leur a été reproché, parce que du coup ça voudrait dire que c'est pas un vrai groupe authentique, parce qu'il y a eu cette idée d'auditionner, alors que c'est quand même aussi assez banal finalement, ça se fait aussi dans la musique. Et puis on va les priver, comme je disais, de l'agentivité et de la maîtrise de leur art, en effaçant le fait qu'elles participaient à l'écriture de leurs chansons, elles participaient aux chorégraphies, et que même au bout d'un moment, elles ont fini par se séparer de leur manager pour tout faire toutes seules. Après leur premier album, ce qui est quand même assez couillu, on peut le dire, entre guillemets. Et les médias étaient vraiment très sévères envers elles. Par exemple, Jerry Halliwell, ils se sont amusés à poster des photos d'elles. Donc il me semble que c'est parce qu'elles posaient à une époque pour des jeunes artistes, pour se faire un peu de sous, donc dans des cours de théâtre, enfin pas des cours de théâtre, des cours de dessin, pardon.
De nu.
De nu, voilà. Et donc des médias, donc essayent de la piéger en publiant des photos comme ça. Victoria Beckham, quand elle accouche de son premier enfant, un présentateur télé lui amène une balance pour qu'elle se pèse, en lui disant on va voir si t'as perdu le poids de ta grossesse ou pas. Enfin, plein de choses comme ça qui se conjuguent. Et on a aussi des artistes masculins qui s'en prennent à elle aussi. Ça a été un peu le cas d'Oasis à une époque, ou du grand producteur Phil Spector, qui est un des grands producteurs historiques de la musique et qui avait été très très méprisant à leur égard. Donc je pense aussi que c'est pour ça que ça n'a pas duré longtemps, parce que les attaques ont été tellement violentes que c'était compliqué, je pense, pour que le groupe réussisse à durer longtemps.
On imagine, en termes de santé mentale, qu'en effet, c'est pas facile de résister à cette forme-là de pression. Si on revient un petit peu à ce girl power, il y a quand même un aspect quasiment anti-féministe aussi, par certains aspects de ce mouvement-là. Au final, avec le recul, tu dirais qu'elles ont eu une influence plutôt positive en termes de féminisme, ou est-ce que le côté anti-féministe qu'elles affichent, hein, parce qu'elles affichent leur soutien à Margaret Thatcher, par exemple, qui est alors effectivement une première femme de pouvoir en Angleterre, mais qui est aussi extrêmement conservatrice. Elles sont très dans l'hétéronormativité, pour le coup, conformistes aussi à certains stéréotypes de genre. Et elles se revendiquent, pour le coup, jamais féministes, à aucun moment.
Non, elles ne se sont jamais revendiquées féministes. Même encore aujourd'hui, c'est toujours pas le cas, et je pense que ça le sera jamais. Donc c'est pour ça que je dis que pour moi, ce sont des icônes féministes contraintes, au sens où elles n'ont jamais cherché à l'être, parce qu'elles ne se reconnaissaient pas dans ce mot-là, mais ce qui est pour moi le reflet de leur éducation et de l'époque dans laquelle elles ont grandi, donc notamment les années 80, qui étaient ces périodes d'ultralibéralisme à la Ronald Reagan, à la Margaret Thatcher, avec cette idée que chacun, si on veut, on peut, donc de méritocratie dont on connaît bien, enfin dont on essaye en tout cas de débusquer les écueils aujourd'hui, et dans leur cas... Elles ont grandi dans ce qu'on appelle le post-féminisme, c'est-à-dire cette idée que le féminisme n'est plus nécessaire parce que ça y est, les femmes sont les égales des hommes dans la loi, donc il n'y a plus de raison de se battre. Et si certaines continuent à le faire, c'est que ce sont des rapias, c'est que ce sont des vieilles femmes à chat, enfin voilà, tous les clichés qui vont avec, et des clichés que les Spice Girls d'ailleurs elles-mêmes ont pu véhiculer. Et c'est pour ça que parfois j'aime bien parler de rendez-vous manqué entre certaines pop stars et le féminisme, parce que dans leur cas, elles ont quand même positivement influencé toute une génération qui en parle aujourd'hui avec le recul. Et c'est ce que j'explore par exemple dans le bouquin aussi, c'est qu'elles ont été vachement réhabilitées, notamment par ma génération, les millennials, qui dans les années 2010 ont commencé à écrire sur le fait qu'elles ont été ma porte d'entrée vers le féminisme, alors une porte d'entrée avec beaucoup de défauts, mais néanmoins elles m'ont sensibilisée aux inégalités de traitement entre femmes et hommes, et l'idée d'essayer de pas, entre guillemets, se laisser faire en tant que femme. Donc c'est souvent des lignes de crête pour ces artistes-là, leur rapport au féminisme, mais à nouveau c'est souvent le reflet de la société dans laquelle elles ont grandi.
Toi, Louise, de ton côté, t'étais un peu petite à l'époque des Spice Girls. Du coup, je le disais tout à l'heure, ta première grande icône de laquelle tu es fan, c'est Laurie, qui arrive sur la scène française au tournant des années 2000. Toi, t'avais 5 ans, je pense, à peu près, en 2000. Qu'est-ce qui t'a plu chez elle? Est-ce que tu te souviens un petit peu de ce qui te fascine en fait chez elle, alors que toi, tu grandis, tu commences à peine à rentrer dans l'adolescence, sans doute, quand tu la découvres.
Bah là, le premier truc auquel je pense, c'est le texte de Ma meilleure amie, par exemple, qui parle d'amitié entre femmes et de défendre ça. Et après, il y avait tout ce truc d'image. Les images, la manière dont elle s'habillait, le fait que ce soit une femme seule sur scène aussi. Je pense que tout ça, ça me faisait quelque chose.
Et est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis « j'ai hyper envie de faire ça un jour » ou pas encore?
Ouais, je me disais waouh, ce serait trop cool.
C'est inaccessible, mais ça serait trop cool.
Ouais,
est-ce que il y avait un rêve lointain quoi.
Moi aussi, je veux un micro casque pour chanter. Comme Laurie et Britney, c'est la grande époque du micro casque.
Du micro casque, c'est vrai. On n'avait pas pensé à ça. On avait gardé en tête les bottes à paillettes, mais le micro casque, il était là aussi. Après, t'as été plutôt fan de la comédie musical Roméo et Juliette, qui, je pense, a marqué toutes nos générations aussi. Ouais. Même à 10 ans d'écart, on a quand même ces références-là. Tu citais Jennifer aussi quand on a préparé le podcast, et puis Tokyo Hotel, les Bébés Brunes. En quoi est-ce que ces artistes-là, ils t'ont marqué? Pourquoi est-ce qu'ils t'ont inspiré à ce moment-là?
Alors, je rebondis direct sur Tokyo Hotel. Je pense qu'il y avait déjà un truc d'androgynité qui me fascinait là-dedans. Et puis l'allemand, qui était une langue plutôt singulière,
originale.
Voilà. Pareil, beaucoup le visuel, l'esthétique du groupe, et Bill Kaulitz, qui était vraiment entre le féminin et le masculin, et c'est toujours un truc qui m'a qui m'a fascinée, qui m'a touchée, quoi.
Effectivement, tu as une vision très globale, en fait, même encore aujourd'hui. Hein, tu penses à la direction artistique des clips, de tout ton projet, des costumes aussi, parce que tu as fait une école de mode. Mmh. Tu les fabriques toi-même. Du coup, est-ce que tu avais déjà cette vision-là un peu globale? Tu parles pas uniquement de musique, en fait, quand tu parles de là, cette impression, ce qui t'ont marqué, quoi.
Ouais. Oui, non, je parle pas. En fait, je suis plutôt une personne très visuelle. Et du coup, je pense que c'est le premier truc qui m'a touchée. Même dans l'art, j'ai commencé par faire du dessin. Puis ensuite, il y a eu le vêtement. Et ensuite, il y a eu la musique. Et la voix qui a toujours été là. Mais en tout cas, la première accroche artistique, ça a toujours été le regard, la vue, l'image.
Et petite, justement, tu apprends le solfège, le piano. Et puis, c'est au collège que commence à venir cette envie de se produire sur scène. Alors, modestement, comme une ado de l'époque. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ces premiers pas sur scène?
Eh bien, je me souviens d'une journée franco-allemande.
On y revient à l'allemand, il y a un truc avec l'allemand.
Où on avait fait une reprise de 1919 Luftballon, qu'on avait chanté.
Je pense que tout le monde connaît.
Ouais.
Ouais, ok.
Qui a été reprise par Zao Tsagazan récemment.
En plus, ouais, c'est vrai.
Et bref, on avait fait un petit concert dans le self du collège et tout, costumé un peu comme Tokyo Hotel. Voilà, ça c'était un peu la première expérience de groupe.
Et est-ce que ça t'a... Tu t'en rappelles comme étant un moment où tu t'es dit « Waouh, je fais ce que faisait potentiellement Laurie que t'allais voir en concert quand t'étais petite ou... »
Je sais plus trop, juste ça m'attirait et puis j'avais vraiment envie de monter un groupe. Puis au final, ça s'est pas trop fait avec les personnes avec qui j'étais. On a juste fait un concert de fin d'année et c'était trop cool, j'ai adoré, mais ensuite je savais pas comment... faire pour que ça perdure ou pour faire vraiment ça, quoi.
Ouais.
Donc ça s'est arrêté à la fin du collège.
C'est voilà. Ça. Et du coup, la musique, pour toi, ça a repris un peu plus tard, finalement.
Ça a repris bien plus tard. Ça a repris quand j'avais 24 ans, 25 ans.
Après, justement, ces études de mode que tu as faites à Cholet.
Non, à Paris.
À Paris, ouais. Rien à voir, pardon. Ok, là j'aimerais bien qu'on avance un petit peu vers ce féminisme pop dont on parlait tout à l'heure. Donc une nouvelle ère se profile entre la musique pop et le féminisme avec les années 2010. On change un petit peu de ce girl power qui était plus ou moins féministe et parfois plutôt moins que plus. Et du coup, parmi les figures de ce mouvement, Morgane, tu décris notamment Beyoncé qui, dès 2008, avec son titre Single Ladies, puis celui que Run the World aussi, ça enclenche en fait le début d'un féminisme un peu plus affiché, plus affirmé par les pop stars, parfois aussi de façon assez naïve en fait. Hein, tu soulignes par exemple qu'affirmer que les femmes dirigent le monde, c'est pas très réaliste finalement, dans un contexte où, voilà, comme s'il y avait effectivement plus de combats à mener là aussi, et que si on voulait, on pouvait, quoi. Pour autant, t'identifies 2014 notamment et la performance de Beyoncé avec le titre Flawless au MTV Music Awards, où elle performe en fait avec le mot féministe en fond, en toile de fond en fait. Et pour toi, c'est un moment charnière. Peut-être qu'on regarde le clip. We teach girls that they cannot be sexual beings in the way that boys are. Feminist, a person who believes in the social, political and economic equality of the sexes. Je vais couper là parce que on n'a pas beaucoup de temps et que voilà. Mais du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi ce choix de ce clip-là dont tu m'as parlé quand on a préparé ce temps?
C'est une chanson dans laquelle notamment elle cite un extrait d'un discours qu'on a entendu d'une autrice qui s'appelle Chimamanda Ngozi Adichie, qui est une autrice américaine qui est très connue pour pas mal de romans. Des romans notamment où elle s'intéresse, en gros, on peut dire, à la diaspora africaine aux États-Unis et à comment est-ce qu'on vit en tant que femme noire, notamment aux États-Unis, et comment est-ce qu'on essaye d'affronter le racisme et de concilier aussi parfois ses origines avec le modèle états-unien, quoi. Voilà, pour vraiment schématiser très très vite. Et en fait, Chimamanda Ngozi Adichie, elle donne ce discours qui s'intitule « We should all be feminists », donc qui a fini en t-shirt Dior. donc c'est un discours qu'elle fait pour l'entreprise, l'association TEDx, qu'elle fait, je crois, en 2013 et qui en fait devient virale, je pense, parce que son message est très clair. We should all be feminists. Alors, c'est bizarre, en France, on a traduit par « nous sommes tous féministes », mais moi, j'aurais plutôt tendance à traduire par « nous devrions tous être féministes », qui n'est quand même pas la même chose, mais bon, je ne sais pas pourquoi, en français, on l'a traduit comme ça. et donc, ce discours, il est devenu très viral, parce que je pense qu'elle a su saisir son époque, à ce moment-là, cette autrice-là, et notamment de revendiquer, de rappeler ce que c'est le féminisme, c'est que c'est un combat politique pour l'égalité, mais aussi qu'au-delà de ça, il faut relever la manière dont on éduque les filles, dont on éduque les garçons, de manière très différente, et de repenser aussi notre manière d'éduquer les enfants. Et donc Beyoncé, qui elle est plutôt connue pour sa pop, pareil, quand même assez sexuelle, ou parlant beaucoup de son couple avec Jay-Z, dont on suit les hauts et les bas depuis longtemps maintenant. Là, elle prend tout le monde par surprise en sortant ce titre-là, avec cet extrait de discours qui nous parle de féminisme, où le mot est vraiment prononcé. Donc ça prend tout le monde de court, et puis en plus, comme tu l'as dit, du coup, elle va chanter cette chanson-là et d'autres aussi, au MTV VMA, donc qui est la grande cérémonie de MTV qui a lieu tous les ans. Et à un moment, va y avoir l'énorme mot, enfin féministe en énorme derrière elle, et elle plongée dans le noir, donc pour vraiment mettre en avant ce mot. Donc il y a un moment où c'est pensé pour, et là ça, c'est un basculement parce que comme je le disais, Madonna s'est pas revendiquée féministe pendant très longtemps, et c'est la première fois qu'on voit une pop star s'emparer de ce mot là et le revendiquer, en plus dans un haut lieu de la pop culture qui est la cérémonie des MTV VMA. Et de là, beaucoup de choses changent, et elle ouvre la porte, en fait, sans le savoir, pour moi, ce qu'on appelle du coup le féminisme pop, dont on a parlé, et notamment à encourager d'autres célébrités, alors des pop stars ou pas, mais aussi des actrices parfois, à commencer à s'emparer des sujets féministes.
Est-ce que à ce moment-là, tu dirais qu'il y a une forme de marketing, de féminisme washing, ou est-ce que féminisme washing, éventuellement, tout le monde sait de quoi qu'est-ce,
d'instrumentaliser causes féministes pour se faire de l'argent, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, est-ce que c'est plutôt ça, ou est-ce que on a là une artiste noire américaine aussi qui fait appel à une autrice noire américaine pour affirmer parce que le discours, il n'est pas uniquement sur le féminisme, il affirme aussi quelque chose d'un peu plus large. Est-ce que la dimension de lutte antiraciste, elle est importante là-dedans ? Comment tu analyses ça ?
Je ne pense pas du tout que ce soit un move marketing pour Beyoncé. En fait, ça, c'est la nouvelle critique qui est faite depuis longtemps maintenant à toutes ces pop stars qui se disent féministes. Et moi, dont on me pose souvent la question, c'est « mais est-ce que tout ça, ce n'est pas que du marketing ?» En fait, moi, ma réponse, c'est que dans une société qui reste patriarcale, ça peut pas être marketing, parce que t'as plutôt beaucoup à perdre de te dire féministe et d'essayer de t'engager sur ces questions-là, même quand tu es une grande artiste, plutôt que l'inverse. Pour autant, je pense que pour Beyoncé, ça n'arrive pas à un moment anodin. Je pense que ça arrive à un moment de sa carrière où elle peut se le permettre, et puis où également, en fait, tout simplement, elle a pu... Je veux dire, tout au long de notre vie, on peut apprendre beaucoup de choses, on peut se former à beaucoup de problématiques différentes. Et je pense que, comme d'autres qui ont à peu près son âge, je pense qu'elle s'est retrouvée confrontée à une lecture féministe de ce qu'elle avait pu vivre, en tout cas, en tant qu'interprète et artiste féminine. Et c'est vrai que pour elle, assez vite, elle va t'en parler, elle va le lier aux luttes antiracistes. Donc, c'est-à-dire que pour elle, c'est pas entre guillemets que du féminisme. Il y a aussi cette envie de porter notamment les causes des femmes noires, en tout cas des femmes racisées. Notamment, c'est ce qu'elle exprime dans une interview à Elle, pas très longtemps après la sortie de cette chanson, où elle dit « je veux pas qu'on pense que le féminisme est à mes yeux plus important que les luttes antiracistes, moi je les mets au même niveau ». Et donc elle montre aussi dans ces cas-là plutôt ce qu'on appelle une approche intersectionnelle du féminisme, c'est-à-dire l'idée que pour comprendre les enjeux liés aux femmes, il faut comprendre que les femmes ne forment pas un groupe homogène, qu'il faut prendre aussi en compte l'origine, l'ethnie, entre guillemets, l'origine sociale, le genre, l'orientation sexuelle, est-ce qu'on est porteuse de handicap ou pas, enfin plein de critères qui rentrent en compte et qui créent des situations spécifiques de violence ou de discrimination. Et Beyoncé, c'est quelque chose qu'elle va remettre au clair très très vite, voilà, et remettre vraiment sur le devant de la scène, notamment avec son album Lemonade, qui suit cet album-là sur lequel il y a cette chanson Flawless. Sur l'album Lemonade qui sort en 2016, elle va vraiment pleinement exprimer son afro-féminisme, parce que c'est un des noms notamment qu'on donne au féminisme porté par les femmes noires, avec voilà, cette perspective aussi antiraciste très très importante.
Du coup, Louise, pour toi, Beyoncé, c'est, je pense, l'époque du lycée, quelque chose comme ça, où tu étais jeune, jeune adultie, oui. Comment on dit ça. Et on parlait là d'hypersexualisation du corps, qui est aussi quand même une des choses qui caractérise nombre de clips et de chansons de Beyoncé. On pourrait dire que c'est aussi un peu le cas, finalement, avec les Laurie ou les Jennifer de ce monde, qui ont quand même eu un... Enfin, en tout cas, pour lesquels le rapport au corps est hyper... sur le devant de la scène, on parlait tout à l'heure aussi, enfin c'est toujours présent hein, pour Madonna, ça a été le cas, pour les Spice Girls, on parlait de cet épisode de Victoria Beckham qui, juste après son accouchement, doit se peser en public dans un talk show. Voilà, le rapport au corps, c'est vraiment un sujet dans la musique pop. Je sais aussi que pour toi, ça a été un sujet, de façon plus personnelle, à cette période-là du lycée. Est-ce que tu dirais que ton rapport au corps, il était aussi façonné par cette pop culture qui nous a été beaucoup ramenée sur le devant de la scène? Il y a des injonctions qui sont extrêmement fortes sur le corps des femmes, et quand on est une jeune fille, c'est difficile de ne pas se sentir pressurisée par ça.
Carrément, moi au lycée, j'étais... très influencée par les magazines de mode que je regardais beaucoup, que ma mère aussi, un père aussi qui avait une idée très précise de c'est quoi être une belle femme, c'est-à-dire mince, par exemple. et moi, au lycée, j'ai développé des troubles du comportement alimentaire, et je pense que oui, ça a eu un lien avec ce que je voyais, la société dans laquelle je baignais, le fait de grandir et dans ce corps sans savoir vraiment ce que je voulais en faire. Et puis aussi, finalement, c'est le premier truc qu'on m'a enlevé, enfin, comme si on commentait mon corps sans que j'en ai vraiment conscience. Et donc ça, c'était le lycée.
Tu veux dire à travers la pop culture ou l'environnement familial
et dans l'environnement familial et dans l'intimité.
Tu es à ce moment-là dans un... quelque chose qui relève du culte de la minceur, hein, mais qui, comme tu le dis, en fait, à chaque page des magazines de mode à cette époque-là, hein, et toujours d'ailleurs. Enfin, est-ce que tu as senti une évolution là-dessus? Ou est-ce que tu dirais que c'est toujours aussi... Parce qu'on est passé, en fait, par une période très body positive. Tu dirais qu'aujourd'hui, on est un peu moins dans ces injonctions-là où tu vois pas d'évolution vraiment.
Alors, si je vois une évolution, c'est drôle. J'en parlais avec une artiste qui s'appelle Songe, qui disait, en fait, aujourd'hui... il faut être soit très mince, enfin, soit mince, soit très grosse. Mais en fait, l'entre-deux, il n'est pas possible, c'est compliqué. Par exemple, on va directement penser à une baisse d'Ito, on va se dire « Ah ouais, elle assume de ouf, c'est trop cool », et à plein de pop stars super minces. Et je trouvais ça super intéressant qu'elle parle de ça, parce qu'elle disait en fait, les artistes pop qui sont entre-deux, on les voit pas, elles sont un peu invisibilisées, quoi. Donc oui, il y a une évolution, mais il y a quand même ce truc très binaire. Toujours.
Oui, il faut toujours rester dans une étiquette.
Voilà, t'es toujours dans une case pour qu'on puisse t'identifier. Que ce soit... et ça parle aussi du fait que t'es un produit qu'on vend dans l'industrie musicale. Enfin, je fais le pont un peu, mais ça parle de ça aussi.
Oui. Oui, et d'ailleurs, quand certaines artistes grosses perdent du poids, ça fait beaucoup parler.
Oui, oui, on pense à Adèle.
Adèle
hein, qui
ou Lizzo.
Ou Lizzo, ouais. Du coup, il n'y a pas de bonne façon de faire. Hein. C'est toujours le problème. le problème.
De manière générale, peu importe ce qu'elles font, ça ne va jamais.
Donc... je pense que ce sera la conclusion de tout à l'heure, de toute façon. je spoil un peu la suite. Tu disais aussi, Louise, que tu étais attirée par l'androgynie des chanteurs de Tokyo Hotel, très inspirée aussi par les costumes de scène des chanteuses de ton enfance. C'est quelque chose que tu cultives aussi aujourd'hui dans tes performances scéniques, à la fois donc sur ce côté mise en scène, mais aussi dans tes costumes à toi. Ce serait peut-être le moment de te voir toi en scène. Du coup, on va regarder un extrait d'une scène que tu as faite avec Michel et les garçons, ton ancien projet. Et là, on va être plutôt sur, comment il s'appelle le titre, pardon, Entre la vie et la mort, voilà.
Qui parle d'IVG.
Mon cœur se défiant entre la vie.
Alors, je vais encore couper comme une, comme une hussarde. Je suis désolée pour les gens qui n'aiment pas qu'on coupe les morceaux. Désolée pour toi aussi. Du coup, là, on voit, j'aimerais bien qu'on parle justement de ce costume de scène et un petit peu de quelle façon, finalement, tu te réappropries d'une certaine façon certains codes des pop stars. Et de l'autre, tu les vraiment transformes à ta sauce et à ta créativité. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce processus-là pour toi?
Alors, en tout cas, pour ce qui s'avère de la prestation scénique et le chant, c'est un truc qui part vraiment de l'intérieur de mon corps pour s'exprimer vers l'extérieur. Ça part de apprendre à faire vibrer le son à l'intérieur de soi quand tu chantes pour ensuite le sortir et qu'il soit incarné. En tout cas, ça pour la performance et comment moi je vois être sur scène et comment je le fais avec mon corps, ça part de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Et ensuite, pour tout ce qui est costume, ben, là, je suis strappée. Du coup, ça part de ce truc-là que j'ai commencé début 2025, de me strapper la poitrine. Et ensuite, j'ai un peu décliné le truc différemment en fonction des shows.
Voilà. Et il y a ce truc aussi de presque le juste au corps, enfin ce code-là qui est vraiment un des codes de la pop musique aussi que tu récupères de façon un peu différente, mais
J'ai pas trop analysé ça.
Costumes,
enfin c'est comme peut-être je l'ai pas assez analysé. Et c'est drôle parce que ce costume-là, en fait, je l'ai créé juste avant de monter sur scène. J'avais cette jupe et en fait ça me saoulait qu'elle soit fermée. Et j'avais envie qu'il y ait ce truc avec la jambe qui sorte, avec le bas et tout. Et parce que j'ai souvent un jeu de jambes où genre je jette souvent ma jambe quand je performe et tout. Et du coup, je l'ai customisé juste avant de monter sur scène, ça. Mais du coup, oui, il y a toujours ce truc-là de laisser apparaître le corps, que le corps puisse bouger facilement dans mon rapport à la scène et au costume et à la performance.
Du coup, on parlait tout à l'heure des références en matière de pop star qui étaient assez françaises chez toi, Louise, au tout début en tout cas. Avec toi, Morgane, on parle depuis tout à l'heure d'artistes américaines plutôt. Est-ce qu'on peut parler un peu de pop en Europe et en France, justement? Est-ce qu'on a des pop stars en Europe, en fait?
Oui, on en a. oui, on en a. J'en cite quelques-unes dans mon livre. En tout cas, des artistes, par exemple, francophones. Je pense qu'Angèle, par exemple, on peut considérer que c'est une forme de pop star. Après, je pense qu'en Europe, on a peut-être pas d'équivalent absolument pareil que des artistes américaines, au sens où, notamment dans le rapport au show, dans le rapport à la mise en scène de soi, au costume. Et l'idée, notamment, ça je l'avais pas dit, mais sur Madonna, ce qu'elle a imposé aussi plutôt, c'est l'idée de se réinventer sans cesse, d'album en album, en tant que femme. Une injonction que n'ont pas les artistes masculins. Ils peuvent avoir absolument toujours la même tête toute leur vie.
Et toujours la même chanson, éventuellement.
Toujours la même musique, ça ne pose de problème à personne. Alors que pour les artistes féminines, je pense que tu me contrediras pas là-dessus, Louise, on attend beaucoup plus de allez, fais-nous un show, quoi. Et puis, maintiens notre curiosité et notre attention en te renouvelant sans cesse. Donc, ça, c'est vraiment un des impératifs qui est très dur à gérer. Je pense qu'actuellement, on en rigolait un petit peu tout à l'heure, une grande pop star européenne qu'on a, c'est Rosalia, qui est madrilène, donc qui a grandi à Madrid, et qui est donc espagnole et tout à fait européenne, et qui en plus, je trouve, aborde la pop avec extrêmement de liberté. Là, elle vient de sortir un album qui s'appelle Lux, qui est très exigeant, où elle chante dans 13 langues différentes, où elle s'est pas mal inspirée de Björk, donc l'idée d'une grande orchestration. Donc oui, je pense qu'en Europe, on a aussi nos propres pop stars. Elles ont juste tendance, je pense, à être plus atypiques que ne peuvent l'être parfois les pop stars américaines, ouais.
Si on reprend un peu ce fil historique qu'on avait laissé à Beyoncé en 2014, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de Music 2. En 2017, donc en matière de féminisme, quand même, il y a un gros moment, un gros tournant qui se passe, qui chamboule le monde du cinéma avec le mouvement Me Too. Music 2, lui, voit pas du tout de suite le jour. Il arrive bien plus tard dans une deuxième vague à partir de 2020. Pourquoi est-ce que ça met autant de temps à émerger, ce mouvement-là?
Oui, alors que ce soit aux États-Unis ou chez nous, de manière générale, MeToo prend d'abord très très peu dans la musique. pour la faire très vite, en gros, ce qui ressort dans les enquêtes que peuvent mener certains sites musicaux comme Pitchfork, par exemple, à l'époque, c'est que il y a déjà une forme de déni des violences sexistes et sexuelles dans la musique, parce que, bon, pour schématiser un peu, je pense que l'industrie de la musique se croit très rebelle de manière générale. Et a beaucoup de mal à se remettre en question et à voir qu'en fait, elle reproduit souvent quand même des systèmes de domination, que ce soit le sexisme, le racisme, les LGBTophobies, plein de choses qui se conjuguent. Et que c'est pas un milieu qui est forcément si horizontal que ça. C'est un milieu qui se croit très horizontal. Mais on a des managers, il y a des patrons de labels, il y a des actionnaires, il y a beaucoup de gens à qui répondre quand même. Notamment bah, quand vous n'avez pas la chance de réussir à mener votre carrière aussi bien que vous le voudriez en artiste indépendante notamment. Et en fait, quand tu parles de Music Too, c'est vraiment une vague MeToo qui est spécifique à la France, à l'industrie musicale française, qui émerge en 2020, donc en fait en plein Covid. Moi, mon hypothèse, c'est que bah, notamment la fermeture des salles de concert, l'arrêt, toute la mise en pause en fait, de l'industrie musicale aide certaines langues à se délier, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'enjeu. Tout est à l'arrêt, on ne sait pas quand le monde va pouvoir retourner de manière un peu plus ronde à nouveau. Et du coup, on voit certaines artistes commencer à prendre la parole, un peu comme ça. On a par exemple Pomme, qui est une chanteuse bon, plus folk que pop quand même, même si voilà, elle est aussi diffusée sur des grandes radios, qui par exemple va écrire une lettre dans Mediapart et être interviewée sur le fait qu'elle accuse son ancien... Pas manager, mais en tout cas un homme qui était dans son entourage proche au début de sa carrière, de mauvais traitements. Et donc, on assiste à une vague spécifique à l'industrie musicale française qui va s'appeler Music Too, en fait, parce qu'il y a un collectif anonyme à ce moment-là qui émerge, qui s'appelle Music Too, et qui lance en fait une campagne pour recueillir des témoignages anonymes, essayer de les regrouper pour à la fois faciliter les dépôts de plaintes, parce qu'en général, c'est plus simple. Vous avez plus de chances que votre affaire soit portée à la justice si vous faites des dépôts de plaintes groupés. Soit ils vont confier des témoignages à des médias, alors parfois des grands médias nationaux comme Mediapart, ou des médias locaux qui vont enquêter sur, par exemple, la scène rock à Rennes, sur la scène rock à Toulouse, sur des scènes rap ailleurs en France, et qui vont permettre notamment de pointer du doigt certains managers, certains tourneurs, certains producteurs, et permettre l'émergence de plusieurs affaires qui sortent du coup en 2020-2021. Et donc c'est très spécifique à la France à ce moment-là, parce que même aux États-Unis, les langues ont quand même eu du mal à se délier également dans l'industrie musicale. Ça s'est fait petit à petit, mais pareil, ça a pris du temps, là où le cinéma a vraiment été emporté par à la base donc l'affaire Weinstein, donc ce producteur américain qui a été accusé de multiples VSS contre des femmes, et qui lui finalement est tombé, et ça a entraîné toute une énorme prise de parole, en tout cas dans le cinéma à ce moment-là. Mais la musique, oui, a été très réfractaire à se lancer dans cet examen, en tout cas de son propre milieu, ouais.
Et justement, est-ce que ça reflète finalement l'état actuel, alors en parlant de la France hein, pour l'instant, du sexisme en fait dans le monde de la musique, et puis de ce que sont les stéréotypes de genre, et les biais finalement, parce qu'on sait que dans les programmations des salles par exemple, il y a largement moins de femmes. Je crois que c'est en 2023 dans les festivals, il y a 14% des affiches qui sont féminines, donc c'est
14%
très peu
des artistes,
qui montent sur scène qui sont féminines. 29% des titres commercialisés sont interprétés par des femmes en 2021, 5% dans le rap. On pourrait continuer longtemps, mais du coup, c'est aussi un reflet de ce sexisme-là qui existe toujours, quoi.
Oui, le sexisme est toujours très très présent dans l'industrie musicale, y compris en France. Moi, j'ai notamment donc un chapitre où je parle pas mal de ça, et où en fait je cite des études, des statistiques qui sont menées régulièrement de manière indépendante par des collectifs notamment. Là aussi, ça j'en ai pas parlé, mais l'effet positif aussi de Music Too en France, c'est qu'on a vu pas mal de collectifs émerger dans l'industrie musicale, enfin dans les scènes musicales en tout cas, pour essayer de favoriser la place des femmes, essayer de multiplier le réseautage aussi entre femmes dans l'industrie musicale par exemple, ou des associations, des collectifs qui interviennent sur les questions de VSS par exemple commises même dans des lieux de fête ou des festivals, ce qui est un gros sujet. Et donc, le sexisme, il est très présent à la fois dans les chiffres de programmation, toujours, dans le fait que quand vous travaillez dans l'industrie musicale en tant que femme, c'est une femme sur trois dans l'industrie musicale qui va subir à un moment des VSS dans le cadre de son travail, ce qui est plus que dans d'autres milieux professionnels. Et en fait, ces violences, elles peuvent à la fois concerner les artistes, mais aussi les femmes en coulisses, les techniciennes, par exemple. On voit aussi qu'il y a peu de femmes à des grands postes décisionnaires dans les labels. C'est encore le cas beaucoup en France aujourd'hui. Et moi, un chiffre qui m'a beaucoup marqué, enfin une stat en tout cas, c'est que à partir de 30 ans, les femmes commencent à disparaître de l'industrie musicale en France, parce que c'est un milieu de la nuit, beaucoup, le soir, et que c'est compliqué en tant que femme aussi de pouvoir continuer à persévérer dans ce milieu-là, parce que la charge des enfants revient encore
si
beaucoup.
Si on a une vie de famille.
Si on a une vie de famille, voilà. Et donc, moi, ne serait-ce qu'en faisant mes recherches, je me suis prise des grosses claques, parce que il n'y a rien de plus parlant que les chiffres qui sont en plus les mêmes que qu'on s'intéresse à l'industrie musicale en France ou aux États-Unis ou dans plein d'autres pays, ce sont les mêmes tendances qui ressortent partout.
Louise, donc toi, tu as commencé donc à monter sur scène en 2021, je pense. Est-ce que ce contexte-là, c'est des choses auxquelles tu as assisté toi déjà, dont tu as peut-être déjà été victime, cette question des violences sexistes et sexuelles dans le milieu musical, ou est-ce que tu as été protégée un petit peu de ça en tant qu'artiste?
En vrai, ça a quand même été, mais j'ai sur les réseaux un peu des commentaires en mode quand la musique est mauvaise on se fout à poil ou ce genre de truc. Après oui, il y a des comportements qui sont sexistes quand on fait de la musique en tant que meuf, ouais.
Tu disais aussi que en préparant ça, que t'avais aussi eu l'impression beaucoup de devoir prouver quelque chose, de prouver ta légitimité, ta place en tant que femme. C'est aussi une des raisons pour lesquelles aujourd'hui t'as un projet solo. Au final, c'est aussi reprendre ce pouvoir-là de créativité sur l'ensemble du projet.
Ouais, il y avait plusieurs aléas. C'est le fait que moi j'ai repris la musique tard déjà, donc à 24, 25 ans. Avec deux personnes qui jouaient ensemble depuis 10-15 ans, qui étaient des mecs. Et du coup, il y avait ce truc-là de j'avais envie de rattraper le temps perdu. En même temps, j'avais envie de prendre ma place. Et au début, j'avais pas envie d'être lead, front, chanteuse dans un groupe avec des gars, parce que j'avais pas envie d'être le stéréotype de la meuf qui fait de la musique, quoi. Donc je voulais absolument rester derrière le synthé, jouer d'un instrument. Et puis un jour, j'ai une copine qui est venue en résidence et qui m'a dit « Allez, vas-y, essaye !» Et là, comme c'est ma copine qui me l'a dit, que c'était une meuf, je me suis dit « Bon, allez, je vais essayer. » Et en fait, j'ai kiffé.
Et essayer, ça veut dire enlever le synthé et te mettre toi en front,
ouais,
sur la scène.
Il y avait toujours le synthé, mais j'y allais pour un morceau. Mmh. Et j'étais vraiment en front. Aussi, du coup, avoir un lien avec le public, avoir une prise de parole aussi plus affirmée. Et du coup... Et du coup, prendre une place plus visible, en fait, quand même. Donc ça m'intéressait.
Et ça marche. Du coup, aujourd'hui, tu portes aussi une vision féministe, intersectionnelle et queer, on l'a dit tout à l'heure. C'est aussi donc le pourquoi du comment tu fais évoluer ton projet aujourd'hui vers un projet solo. Est-ce qu'on écoute peut-être une chanson de toi? Alors, il faut faire une petite manip.
Ça s'appelle
OK
quelque
go.
Chose.
OK
go.
Voilà. Merveille.
Ça marche.
La chanson s'appelle Nos limites. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette chanson? Alors, c'est quoi l'inspiration derrière?
Alors, déjà, c'est une maquette, donc c'est vraiment pas fini, c'est en cours encore de création. Mais l'inspiration, c'est moi qui me balade à Paris, une personne qui se balade à Paris et qui a un peu mis de côté son passé, qui avance, et avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup d'ambition aussi. Et ça parle en fait de la naissance de ce projet créature, de ce que j'ai envie de développer, de regarder et de aussi juste s'amuser, à faire la teuf et à mettre...
Mettons le caca de côté, caca ça me semble côté. Être une très bonne idée, mais continuons à quand même explorer un peu le caca de... directement. Je suis désolée, on n'a pas tout à fait fini. on parlait tout à l'heure... D'une forme de pression qui s'exerce sur les artistes, quand, notamment quand on parlait des Spice Girls, par exemple, et de leur expérience, et de santé mentale aussi. Toi, Louise, on n'a pas trop le temps d'en parler, mais tu as vécu un burn-out aussi. Enfin, voilà, la question de la santé mentale des artistes, c'est un vrai sujet. Et cette pression-là, notamment, qui s'exprime sur les femmes et les minorités de genre, elle passe aussi par une forme d'exigence de perfection. À la fois physique, morale, qui est demandée aux artistes. Morgane t'en parle largement depuis la sortie du dernier album de Taylor Swift. Cet exemple-là, il est édifiant en fait sur la question de la pression qui est faite à cet artiste-là. Elle a commencé la musique très jeune. Chacun de ses gestes, de ses titres, de ses choix ont été scrutés depuis... elle avait 15 ans hein, quand elle a lancé son premier album, je crois. C'est un peu ce qui se répète à l'infini, j'ai l'impression, avec toutes les artistes pop stars dont tu parles dans ton livre. Madonna, les Spice Girls, Beyoncé, il y a toujours des critiques qui sont systématiques. Est-ce que ça veut dire que les pop stars, elles peuvent jamais gagner la bataille médiatique, ni d'ailleurs face à leurs collègues masculins ?
Rarement. D'ailleurs, par exemple, on parlait de Rosalia, qui en ce moment, au contraire, a un peu suscité presque une espèce de succès, une critique en tout cas presque unanime quand elle a sorti son nouvel album il y a 2 semaines maintenant. Par exemple, Rosalia, c'est quelqu'un qui d'abord a tenté sa chance dans un télécrochet. Donc on a des images d'elle, je crois que c'était un peu l'équivalent de la nouvelle star, mais en Espagne, quoi. Et elle chantait pas très bien à l'époque. Donc typiquement, je trouve que ça montre qu'il y a plein de trajectoires qui sont possibles. C'est-à-dire que je pense qu'en la voyant, enfin même quand on voit cet extrait, elle chante pas très bien, on pouvait difficilement imaginer la trajectoire qu'elle allait avoir, et notamment aussi l'approche très atypique, très pluridisciplinaire qu'elle apporte à la pop. Ce sont des femmes qui sont très sévèrement jugées, c'est-à-dire que... qu'on puisse critiquer, c'est pas un problème, mais ça va toujours plus loin que ça. C'est-à-dire que c'est pas juste des critiques sur la musique, ça va être prêter des intentions à ces femmes-là, leur reprocher d'être trop ceci ou pas assez ceci. Et moi, c'est ce que je constate quand même au bout d'un moment, à force de suivre un peu ce qui se passe dans ces milieux-là, notamment Taylor Swift, à laquelle aussi j'ai consacré une monographie toujours chez Le Mot et le Reste, qui est sortie cette année, c'est que il y a quand même une violence qui se dégage, souvent, des critiques qui sont faites. C'est-à-dire qu'encore une fois, on ne parle pas que de musique. L'idée, c'est de vraiment s'en prendre aussi, souvent, à ces artistes-là en tant que personne, en tant que femme, et souvent vis-à-vis de ce qu'elles symbolisent, finalement. Par exemple, un exemple que je cite pas mal en ce moment, et je n'ai rien contre Télérama, dont j'apprécie beaucoup le travail. voilà, j'aimerais pas griller mes chances éventuellement de travailler là-bas un jour. Voilà, quand on... Télérama qui sort une critique du dernier album de Taylor Swift en disant « Il est aussi creux que les précédents, allez bim, on passe à autre chose », non, il y a un problème en fait, vous pouvez pas dire ça. c'est que là vraiment vous passez quand même à côté de quelque chose, c'est-à-dire à nouveau on peut ne pas apprécier, mais dans le cas des pop stars, et là ça les rassemble toutes, je trouve, ce sont des femmes qui parlent à des centaines de millions de personnes à travers le monde. Il faut quand même faire l'effort intellectuel au bout d'un moment de se demander pourquoi est-ce qu'elles parlent notamment à autant de femmes, qu'est-ce qui les touche, et en quoi est-ce qu'elles sont représentatives, bien sûr dans une certaine mesure, de la condition féminine de leur époque. Et dans le cas de Taylor Swift notamment, qui pour moi je trouve incarne vraiment un peu une essence très très féminine de la pop, qui est souvent d'ailleurs caricaturée comme très délicate alors que pas tant que ça. Là aussi, il y a beaucoup d'a priori qui ont la vie très dure, et c'est pour ça que je pense que c'est important d'en revenir aux faits. Et comme je le disais, les recherches que j'ai pu faire pour mon premier livre, j'étais atterrée de tomber sur certains épisodes, certaines critiques qui ont très mal vieilli. Et je pense que, moi c'est une de mes hypothèses, je pense que l'acharnement qu'il y a en ce moment sur Taylor Swift Je pense qu'il y aura un peu un mea culpa d'ici 10-20 ans, comme c'est le cas actuellement avec Britney Spears, qu'on a très maltraitée il y a 15 ans. Et comme ça a été le cas aussi, par exemple, avec Amy Winehouse, extrêmement maltraitée également. Pour moi, elle est aussi morte du traitement médiatique horrible qui était fait envers elle. On peut penser à Whitney Houston également. Enfin, voilà, des femmes, Marilyn Monroe, si on remonte encore plus loin, des femmes qui ont été brisées, en fait, par la célébrité et par un regard public très sévère. Dans le cas de Taylor Swift, je pense que si elle tient notamment, c'est parce qu'elle a la chance d'avoir un entourage familial très fort et bien intentionné envers elle. Ce qui n'a pas été le cas de beaucoup des femmes que j'ai pu citer précédemment. Et malheureusement, c'est aussi ça qui, parfois, fait la différence entre celles qui arrivent à tenir, après que ce soit familial ou amical, hein, mais en tout cas de réussir à avoir un entourage solide qui vous aide, parce que c'est un métier très 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 difficile. Même quand elles sont à un niveau de célébrité très fort, ça reste des êtres humains. Qui bien sûr ont beaucoup de privilèges, mais néanmoins je trouve qu'on a tendance à les déshumaniser, notamment ce qui concerne les femmes.
Taylor Swift, elle dénonce ce double standard sexiste, hein, qui est quand même très différent dans la réception des œuvres masculines par rapport aux œuvres féminines. Oui. Tu me parlais aussi en préparant cette rencontre qu'il y a aujourd'hui l'essor de nouvelles chanteuses, en fait. Ça se renouvelle, évidemment, comme toujours. Tu parlais de Rosalia, là, qui vient de sortir son dernier album. On a aussi les Chappell Roan, par exemple, Billie Eilish, Théodora, qui ont, depuis la fin de ton livre, finalement, pris de la place sur la scène pop. Vers où est-ce que tu dirais que le féminisme pop va aujourd'hui? Est-ce que là on voit Taylor Swift, finalement, même dans ses chansons, hein, elle se défend, elle adresse finalement toutes les problématiques là dont on de sexisme, de double standard,
elle répond aux attaques,
à travers ses chansons. Est-ce que on a aujourd'hui une repolitisation un peu de la pop musique? Est-ce qu'on va vers ça?
Oui, je pense. Alors, par exemple, un des derniers trucs sur lesquels je finissais le livre, c'est que je trouve que dans la francophonie, il y a une émergence d'une jeune scène pop très, progressiste en tout cas, pas mal engagée sur pas mal de sujets, souvent féministe, mais aussi souvent LGBT. Alors, je trouve ça assez marrant au sens où il y a beaucoup d'artistes qui sortent un peu, voilà, avec ces profils, par exemple bi ou lesbien, ce que je trouve trop cool, parce que moi, j'étais pas du tout témoin de ça quand j'étais adolescente, fin des années 90, début des années 2000, et en fait, de voir quelqu'un comme Suzanne, par exemple, qui est entre guillemets ouvertement lesbienne, déjà ça, c'est compliqué de le dire comme ça, parce que voilà, ça sous-entend encore, mais de toute façon, à quel point la société est toujours lesbophobe, qui parle de sa rencontre avec son épouse, qui va aussi dénoncer beaucoup de dynamiques patriarcales dans ses chansons. On a aussi Oshi qui fait ça, Pomme également, des chanteuses qui vraiment, je trouve, en tout cas dans la francophonie, viennent nous questionner sur notre vision très hétérocentrée du monde.
Aussi,
et très normative aussi, de manière générale.
Pour le coup, les corps gros, les corps noirs.
Oui, qui est du coup notamment très intersectionnelle dans son approche, parce que malheureusement, elle combine beaucoup de choses qui sont encore très mal vues en tant que femme noire, grosse, et qui essaye aussi d'acquérir de plus en plus d'indépendance et d'agentivité.
Ce sera le mot de la fin.
Qui n'est pas pensé pour des femmes comme elle.
Merci beaucoup à toutes les deux pour cette rencontre. Merci à vous pour votre écoute. Et bonne soirée à vous.